Bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir à tous. À l'ombre d'une guerre, la fin d'une drôle de campagne. Elle se termine ce soir minuit, avant le premier tour de l'élection présidentielle dimanche. Un vote pour choisir son avenir. L'impensable s'est passé ici. Ursula von der Leyen était à Boutcha aujourd'hui et elle vient de remettre au président ukrainien un dossier d'adhésion accéléré à l'Union européenne, tandis qu'à Kramatorsk, le bilan de la frappe sur la gare est de plus de 50 morts désormais. L'actualité, c'est aussi le témoignage de Sonia, celle qui a dénoncé Abdelhamid Abaoud au procès des attentats du 13 novembre. Et puis la déclaration de revenus suspendue à cause de problèmes sur les déclarations pré-remplies. On vous dira tout. Et au téléphone, Sainte-Claire.
Eh bien, on va parler de ces images terribles qui nous arrivent d'Ukraine chaque jour. Des images et des récits de terreur en provenance de ce pays. Comment regarder l'insoutenable? Comment réagir face à l'inacceptable? Certains préfèrent carrément éteindre la télé, d'autres pas. Alors, on va en parler avec nos invités. Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000.
France Inter. Comment les secousses de l'actualité rejailliront-elles sur le scrutin de dimanche? Des gilets jaunes à la guerre en Ukraine, en passant par la crise sanitaire. 5 années ont passé. Les grands partis ont perdu de leur poids, mais pour quelle recomposition? À quelques heures de la fin de campagne officielle ce soir minuit, la pression monte dans les QG des candidats. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Parce que, au-delà de la qualification pour le second tour, ce qui va se décider dimanche, c'est l'équilibre du prochain quinquennat.
Avec une grande question qui induit en fait toutes les autres. Ce premier tour marquera-t-il l'éclatement irrémédiable de LR et du PS? À droite, la recomposition prendra-t-elle un tour définitif entre ceux qui rejoindront l'espace central, aujourd'hui incarné par le président sortant, et ceux qui prendront le chemin opposé vers le camp nationaliste et identitaire? À gauche, de quel côté penchera la balance? Les sociaux-démocrates et les écologistes, amenés logiquement à s'allier, seront-ils écrasés par le pôle alterne mondialiste et radical? D'un côté comme de l'autre, c'est le rapport de force aux législatives qui est en jeu, question de part de marché politique, question de survie même pour certains, puisque leur santé financière dépend en très grande partie de leur nombre de députés, et c'est bien le résultat de dimanche qui déterminera cet avenir à court et moyen terme.
Et Emmanuel Macron, comment termine-t-il cette campagne?
Eh bien lui, en jouant avant l'heure le duel face à Marine Le Pen, ses troupes en tentant de motiver la base militante. La candidate du RN est la seule adversaire qu'Emmanuel Macron cite dans son interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Et il la cite 7 fois, l'accusant de mentir aux gens et de proposer un programme raciste. À partir de lundi, ce sera la castagne, dit aussi le président candidat, comme s'il voulait déjà passer à autre chose. Au terme de cette première partie de campagne, à minima seulement 1 meeting et 5 déplacements. Mais attention à ne pas sauter les étapes, c'est pourtant ce qu'ont répété toute la journée les membres de l'équipe de campagne qui ont appelé leurs adhérents au siège de La République En Marche. Opération mobilisation donc pour Emmanuel Macron, car c'est bien la dynamique de second tour qui est en jeu dans cette élection, loin d'être jouée d'avance.
Emmanuel Macron cible l'extrême droite sans pour autant inquiéter Marine Le Pen, la candidate RN. Les Français ne croient plus au loup-garou, disait-elle mercredi, la candidate aujourd'hui à Narbonne.
Ce sont pas seulement des mots forts, je veux dire, ce sont des mots qui sont insultants. Car la réalité est que je le mets au défi de trouver une seule mesure de mon projet, une seule, qui soit fondée sur une discrimination en vertu de l'origine, de la couleur de la peau, de la religion ou je ne sais quoi d'autre. Je veux dire, donc c'est un mensonge et il ne devrait pas tomber dans cette dérive. Et s'il évoque la priorité nationale, c'est encore plus grave, je le crois. Parce que le fait de donner un avantage aux Français en France est parfaitement légitime et parfaitement naturel. Et d'ailleurs, ce sont les Français qui le décideront, puisque c'est par le vote que je leur demanderai d'introduire la priorité nationale dans la Constitution française.
Marine Le Pen qui répond aux accusations de racisme d'Emmanuel Macron, micro d'Élodie Forêt à Narbonne, et dans un paysage où, désormais, avec la candidature d'Éric Zemmour, l'extrême droite s'installe à près d'un tiers de l'électorat. Que fera le polémiste dimanche soir s'il n'est pas au second tour? Le parti se réunit en comité stratégique ce soir. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Pour trouver la bonne ligne.
Oui, parce qu'en dépit de ce que le candidat martèle à ses soutiens, les sondages se trompent. Je serai qualifié pour le second tour, en dépit du soutien de la commission commissaire de police Julie Lescaut, Véronique Jeunesse dans la vraie vie, le candidat de Reconquête reste sous la barre des 10% d'intention de vote. Depuis quelques jours, Éric Zemmour multiplie les salves contre Marine Le Pen, au risque de rendre compliquée une alliance de second tour. La question doit effectivement être tranchée ce soir, appelée ou non à voter Marine Le Pen. Éric Zemmour pourrait, semble-t-il, se contenter d'un appel à faire battre Emmanuel Macron.
Vous parlez des personnalités du monde de la culture qui soutiennent les candidats. Les artistes s'engagent-ils vraiment ?
Alors oui, c'est pas comme aux grandes heures de la Mitterrandi, mais Philippe Poutou peut s'enorgueillir du soutien de Renaud, Nicolas Dupont-Aignan de celui de Brigitte Bardot, Emmanuel Macron, Pierre Arditi ou Carole Bouquet. Mais à ce jeu-là, le champion, c'est Jean-Luc Mélenchon. Les comédiennes Lucie Lucas et Sophie Laroche-Foucault, les écrivains Annie Ernaux, Édouard Louis, Laurent Binet, les deux Goncourt, Éric Vuillard et Pierre Lemaître, le cinéaste et lanceur d'alerte écolo Cyril Dion, Princesse Erika et Étienne de Crécy. On se demande à quand les Daft Punk.
Et pour Fabien Roussel, Jacques Dutronc.
Exactement, le candidat des jours heureux qui organisait d'ailleurs son dernier AP Roussel dans la section communiste du 20e arrondissement de Paris ce midi. Calamar grillé, saucissé, bon vin. Fabien Roussel qui sait comment soutenir ses équipes.
Là, ils ont chi, ils sont fatigués, ils en ont marre. Et quand ils me disent vivement que ça s'arrête, je leur dis, mais vous êtes dingue. Profitez au contraire de chaque heure qui se passe, parce que vous allez les regretter quand ça s'arrête.
Alors, pas fatiguée, Anne Hidalgo non plus. La candidate a pris la pluie ce matin sur le marché de Belleville à Paris, mais c'est l'orage avec le PS qui ne digère plus ses critiques, qui s'est étranglé en découvrant le dîner secret avec François Hollande au Sénat à 21h01 dimanche. Ça va défourailler sévère, promet un élu proche de la direction. Anne Hidalgo vient pourtant de recueillir le soutien d'Elton John. Alors, seul bémol, il ne vote pas en France.
Derniers échos de campagne signés Laurence Perron à partir de minuit, début de la période de réserve avant le vote dimanche. Soirée spéciale à vivre avec vous, Claire, dimanche. À partir de 18h.
Voilà, et avec Jérôme Cadet, avec Yael Gauze, avec toute l'équipe. Il est 19h06 sur France Inter en Ukraine. Hélène, le bilan de l'attaque de Kramatorsk ne cesse de s'alourdir.
Plus de 50 morts désormais, au moins 5 enfants parmi ceux qui se trouvaient ce matin à la gare de cette ville. Point de rassemblement pour les personnes qui tentent de fuir vers l'ouest. Pavlo Kirilenko, le gouverneur de la région, raconte une matinée d'horreur.
Un missile a frappé la gare centrale de Kramatorsk vers 10h30 ce matin, au moment même où les gens s'apprêtaient à monter dans les trains. Une fois de plus, cette attaque confirme le cynisme incroyable dont fait preuve la Fédération de Russie. L'envahisseur sait pertinemment où il frappe. Il cherche à semer la panique. Il connaît la position des gares, il surveille leur activité, il veut exclusivement toucher la population civile. L'occupant, qui visait jusqu'à présent le réseau ferroviaire, change de tactique et cette roquette en témoigne. Maintenant, il cible les vivants, les civils.
Le gouverneur de la région, joint par Anna Orianik, alors que Moscou dément encore une fois cette frappe, et à quelques centaines de kilomètres de là, plus au nord, la présidente de la Commission européenne et le chef de la diplomatie se sont rendus à Boutcha, voir de leurs yeux les atrocités commises pour exprimer le soutien total de l'Europe.
L'impensable est arrivé ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine, l'insouciance et la froideur avec lesquelles ils ont occupé cette ville. Ici, à Boutcha, nous avons vu notre humanité être brisée. Le monde entier pleure les habitants de Boutcha. Ces gens qui défendent les frontières de l'Europe, qui défendent l'humanité, qui défendent la démocratie. C'est pourquoi il est important d'être à leur côté dans cet important combat.
Les mots d'Ursula von der Leyen à Boutcha, juste avant sa rencontre avec le président Zelensky. Vous étiez avec elle. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Hélène.
Envoyé spécial de France Inter en Ukraine. Leur rencontre vient de se terminer.
Oui, et c'est une toute première étape dans le processus d'intégration à venir de l'Ukraine à l'Union européenne. Une candidature en route donc, matérialisée par un dossier, un questionnaire qu'Ursula von der Leyen a transmis en main propre et devant les caméras à celui qu'elle appelle par son prénom, Volodymyr Zelensky. Elle lui a garanti que son pays appartenait à l'Union et surtout lui a assuré que le processus sera accéléré, que ce sera une question de semaines et pas d'années. Une proposition accueillie avec enthousiasme par le président ukrainien.
We'll be ready with answers Ursula in one way.
Ursula, nous serons prêts avec les réponses dans une semaine.
Rire dans l'assistance, mais la situation exceptionnelle, remède exceptionnel, avec en ligne de mire un plan de financement de reconstruction d'une Ukraine européenne, donc, qui devrait s'élever à des milliards d'euros.
Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot en direct de Kiev. Merci à tous les deux. Et les 27 se retrouveront en sommet extraordinaire avec l'Ukraine parmi les sujets principaux les 30 et 31 mai prochains. Ce sont les héros de la Seconde Guerre mondiale qui reviennent à l'esprit avec l'annonce de cette disparition. Mimi Reinhart est morte aujourd'hui à 107 ans. C'est elle qui a rédigé la célèbre liste de son patron, l'industriel allemand Oskar Schindler, qui a permis de sauver plus de 1000 juifs. C'est en Israël qu'elle vient de s'éteindre. Frédéric Mettezo est à Jérusalem.
Mimi Reinhart a traversé l'Europe, le monde et l'histoire avec discrétion et modestie. Née en 1915 en Autriche, elle épouse un Polonais de Cracovie et pendant la guerre, elle est internée dans un camp de travail où elle est employée comme secrétaire. Et là, elle est recrutée par Oskar Schindler qui a besoin de travailleurs pour son usine, devenue rapidement un refuge, raconte Michael Blum, journaliste à l'AFP à Jérusalem, auteur et spécialiste de la Shoah.
Elle est devenue secrétaire de Schindler parce qu'elle connaissait l'allemand. Non seulement elle avait été la secrétaire d'Oskar Schindler, mais c'est elle-même qui avait dressé la liste des Juifs qui ont été sauvés par Oskar Schindler pendant la Seconde Guerre mondiale.
À la fin de la guerre, Mimi Reinhart est veuve, mais son fils a survécu. Elle le retrouve en Hongrie, part avec lui à New York et le rejoint en Israël en 2007. Michael Blum l'interview à son arrivée.
Elle se sentait absolument pas importante, très très timide, gênée d'avoir participé à quelque chose d'aussi important. On lui avait demandé d'ailleurs si elle avait une copie de cette liste, mais elle avait répondu par la négative.
Mimi Reinhart a mis plusieurs années avant de voir le film de Spielberg sorti en 1993. Je ne voulais pas revivre ça. Finalement, je l'ai vu, mais je ne me reconnaissais pas dans les prisonniers. Ils étaient trop bien habillés. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et sur la bande originale du film et en Israël encore, l'armée a désormais une liberté d'action totale après la quatrième attaque en deux semaines. Deux morts tués par balle hier soir en plein cœur de Tel Aviv. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est aussi ce moment historique dans l'histoire américaine. La première femme noire a été nommée à la Cour suprême par Joe Biden.
Il est 19h12, vous suivez le journal d'Hélène Philly. Celle qui a permis de stopper la fuite des terroristes du 13 novembre était entendue aujourd'hui par la Cour d'assises spéciale de Paris.
La cousine d'Abdelhamid Abaoud qui vit aujourd'hui sous une autre identité protégée. Elle se fait appeler Sonia. Charlotte Piret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette audience assez exceptionnelle, Charlotte, où la témoin est apparue derrière un paravent, la voix brouillée.
Son 13 novembre, raconte Sonia d'une voix faussement masculine, c'est le match de foot sur la télé de son appartement où elle accueille depuis quelques semaines Asna Aïd Boulassen parce que je travaillais au Resto du Cœur et j'avais l'habitude d'héberger des gens qui étaient à la rue. Alors deux jours plus tard, quand Asna lui parle de son cousin sans logement, elle accepte d'accompagner la jeune femme jusqu'à un buisson d'Aubervilliers. Un homme apparaît, basket orange au pied. Il m'a dit « Les terrasses, c'est moi », explique Sonia. « Je me suis figée ». De retour chez elle, Sonia parvient à alerter la police. « On ne m'a pas cru », elle insiste. Les terroristes préparent un nouvel attentat à la défense. Ils ont trouvé une planque. Le commandant de la SDAT me disait « Il nous faut l'adresse ». Il lui conseille même de faire boire Asna. Le stratagème fonctionne. Les terroristes sont arrêtés à temps. Sonia, elle, contrainte de changer de vie, d'identité. « Est-ce que je mérite cette vie-là par rapport à des milliers de personnes vivantes » lance-t-elle à la cour aujourd'hui. Peut-être, mais le sacrifice est lourd.
Et si Abdelhamid Abaoud s'est retrouvé dans ce buisson, c'est parce que tout ne s'est pas passé comme prévu, Charlotte ?
Car il y a une distorsion majeure, explique l'enquêteur antiterroriste entendu cet après-midi également, entre Abdelhamid Abaoud, djihadiste le plus recherché d'Europe, capable de se terrer pendant des mois dans une planque en Belgique, extrêmement prudent, et le fait qu'il se retrouve dans un buisson au pied de la 86. Abdelhamid Abaoud, combattant aguerri, destiné à accomplir d'autres choses, insiste encore l'enquêteur, en l'occurrence, selon lui, un attentat conjoint entre les aéroports de Roissy, où les terroristes ont effectué des repérages, et celui de Schiphol, aux Pays-Bas, où deux autres membres de la cellule se rendent le 13 novembre. Mais la cellule terroriste, qui a usé de tant de professionnalisme, poursuit l'enquêteur, a sans doute connu un imprévu pour le moins providentiel.
Charlotte Piret en direct de la cour d'assises spéciale de Paris avec Frédéric Kérou. À Toulouse, un homme en garde à vue soupçonné d'avoir placé un engin explosif artisanal ce matin dans la cathédrale Saint-Étienne. Il ne contenait pas de détonateur. Quant au suspect, il était déjà connu des services de police pour conduite en état d'ivresse, outrage à agent, par deux fois déjà des déclaré pénalement irresponsable. Si la circulation du Covid se tasse, elle reste tout de même soutenue, rappelle aujourd'hui Santé publique France. Plus de 140 000 cas quotidiens en moyenne encore. Et on a aussi de nouvelles données aujourd'hui sur les Covid longs. Étude de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Un an après l'apparition des symptômes, 85% des patients atteints de Covid long en ont encore, troubles du goût, de l'odorat notamment. Pour les aider, l'hôpital de la Conception à Marseille teste depuis janvier un kit qui contient 5 épices pour stimuler les sens. C'est le reportage d'Olivier Martoc.
Comme cela arrive parfois, cette découverte est fortuite. C'est parce qu'elle avait perdu le goût et l'odorat avec deux de ses collègues d'une entreprise spécialisée dans les épices que Delphine Grégoire s'est retrouvée à l'hôpital de la Conception où Emmanuel Albert, orthophoniste dans le service ORL, était en train, elle, de développer une approche thérapeutique nouvelle.
La rééducation olfactive consiste à stimuler l'odorat, mais aussi à faire le lien entre cette sensation perceptive et la mémoire de cette odeur. Les épices ont un pouvoir évocateur qui nous permettent également de travailler des zones cérébrales qui traitent de l'olfaction, à savoir celles qui traitent de la mémoire, des émotions et du langage.
La suite pour les professionnels des épices a été relativement simple. Il s'est agi de sélectionner les plus efficaces. Delphine Grégoire.
Ce sont des odeurs qui sont évocatives. Par exemple, la vanille est une épice qu'on a forcément dans notre souvenir d'enfance, puisqu'on le retrouve dans des desserts. Et vous allez pouvoir noter sur une des fiches de suivi toutes les améliorations et les progrès que vous avez pu faire.
Le kit mis au point par la marque Cepasco coûte moins de 30 euros. L'entreprise reversera les bénéfices sur ce produit à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Rien ne sert de courir. Pour déclarer vos revenus, il va falloir attendre un peu. L'accès au site internet est suspendu, au moins jusqu'à lundi, à cause visiblement d'une erreur dans les déclarations pré-remplies. Bonsoir Elia Bergel.
Bonsoir.
Et ça concerne surtout les enseignants.
Ce sont des professeurs qui ont donné l'alerte en constatant que parfois, leur salaire pré-rempli sur la déclaration en ligne est bien supérieur au revenu réel. Certains parlent de 30 à 60% d'écart. Julien, enseignant au collège en banlieue parisienne, a repéré une erreur flagrante.
Mes revenus réels sont à environ 25 000 euros et les revenus qui apparaissaient étaient de 30 000 euros. Et si je n'avais pas modifié la valeur, ça signifie que j'aurais payé beaucoup plus d'impôts, certainement près de 1 000 euros d'impôts supplémentaires. J'ai modifié très rapidement les revenus qui étaient affichés.
Alors à ce stade, le fisc ignore d'où vient le problème, combien de professeurs sont touchés. Il s'agirait en fait d'un mauvais comptage des heures supplémentaires des enseignants. La Direction générale des finances publiques ne sait pas encore si d'autres métiers sont concernés par cette erreur. Par mesure de précaution, tout le site internet des impôts est suspendu pour ce week-end au moins, au lendemain de son ouverture. Mais la DGFiP rappelle que même si vous avez validé, vous pouvez toujours corriger votre déclaration jusqu'à la date limite.
Et je le disais, on a un peu de temps puisque si vous déclarez sur papier, vous avez jusqu'au 19 mai. Et si vous le faites en ligne, vous avez, selon les départements, jusqu'au 8 juin prochain. 30 000 foyers sont privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine à cause de la tempête Diego. Le trafic TER de la SNCF est aussi interrompu sur plusieurs lignes au nord de Bordeaux. Plus aucun train ne circule, par exemple, entre Bordeaux et La Rochelle. Et on en vient au choix culture de ce vendredi. C'est un conseil lecture, Les Merveilles, premier roman de l'espagnole Elena Medel, un roman vibrant et politique qui raconte l'histoire de deux femmes, Marie et Alicia, nées à deux époques différentes de l'Espagne. Ilana Moryoussef.
Elles sont deux. Maria, la grand-mère, née dans les années 50, elle trouve à s'employer comme domestique dans une maison bourgeoise. C'est la fin du règne de Franco. Pauvre, ignorante, elle découvre la domination sociale. Puis elle se rend compte que cette domination existe aussi à l'intérieur de son couple. Elena Medel.
J'étais intéressée par le fait de parler politique depuis l'espace de l'intimité. Pas seulement l'espace géographique comme la maison, mais des espaces plus symboliques comme la famille ou le couple.
Le deuxième personnage, c'est Alicia, la petite fille, née dans les années 80. La mort de son père lui a fait dégringoler l'échelle sociale. Personnalité sombre, dérangeante, car on a le droit d'être pauvre et d'avoir mauvais caractère, dit Elena Medel, grande admiratrice d'Annie Ernaux.
Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce que fait et dit Annie Ernaux. Je crois que je l'ai découverte il y a 17 ou 18 ans. C'est elle qui m'a donné le courage de continuer dans cette voie d'une écriture entre l'intime et le politique. J'écris en ayant conscience de l'endroit d'où je viens.
Dans le fond, tout revient à l'argent, au manque d'argent. proclame Elena Medel, qui signe un premier roman plein d'une énergie décapante.
Les merveilles traduites de l'espagnol par Lisbelle Perron est publié aux éditions La Croisée. Et merci Arnaud Cayet et Ludovic Asselot qui étaient aux manettes des journaux cette semaine.
Mais ils font des grands sourires à travers la vitre. Merci beaucoup Hélène Philippe.